Alors, j'étais hors sujet, parce qu'effectivement, mon sujet, c'était l'avenir des modèles économiques logiciels libres. Mais, en fait, la réponse, elle est claire. Ça dépendra de la maturité des clients. Ça dépendra de la manière dont l'argent public, en particulier, qui sert à financer les solutions métiers, ira pour financer de la production, du travail. Alors, c'est déjà le cas chez nous. C'est bientôt le cas dans la sphère privée et ce sera bientôt le public. Mais voilà, c'est les modèles libres, c'est simplement la convergence, la cohérence des modèles qui existent déjà et qui seront beaucoup plus stables parce qu'ils tourneront les uns avec les autres. Alors, I have a dream. Quelques mots sur ce qu'on pourrait faire pour accélérer les choses. Je mets ça dans un désordre total, en vrac quelques idées. D'abord, peut-être l'obligation d'interopérabilité. Je me souviens, lorsque les problèmes autour du RGI faisaient rage, parce qu'on sent le RGI qui empêche, des collectivités avaient brandi l'article 72 de la Constitution, de la libre administration des collectivités, pour dire comment que l'État nous impose. Non, ce n'est pas une contrainte, l'interopérabilité, c'est une obligation. Obligeons-nous à utiliser le même code de la route. Ça ne nous étonne pas qu'il y ait les mêmes panneaux sur toutes les routes de France. Chaque collectivité ne considère pas de son pré carré de choisir des panneaux sans interdit avec une forme spéciale. J'ai remarqué que les sens interdits à Montpellier sont les mêmes qu'à Angoulême, peut-être un peu plus en ce moment. Donc simplement, ici, l'enjeu, c'est de regarder l'interopérabilité, non pas comme une contrainte, mais comme quelque chose qui nous fera avancer. Premier point, donc. Et puis, l'interopérabilité, pas la compatibilité ou les standards de fait, quelque chose qui soit maîtrisé. Il est d'ailleurs très intéressant de voir que, dans la loi sur la confiance et l'économie numérique, chapitre 1, article 4, on définit la notion de standard ouvert. Bon, ce qui serait utile maintenant, ce serait de l'utiliser vraiment. Mais enfin, c'est déjà bien de l'avoir utilisé. De l'avoir dessus. Deuxième idée, mutualisons ensemble. On mutualise beaucoup pour les autres, on parle beaucoup de mutualisation, mais on parle peu de mutualisation avec des égaux. Avec des gens qui, comme nous, ont les mêmes besoins. Pas les gens à qui on invente un besoin et on y répond dans une grande sollicitude. Et d'une certaine façon, notre question, lorsque nous avons un besoin, devrait être celle-là. Alors, je n'invente rien, c'est Richard Gosch qui conseille ça dans des conseils pour le procurement en Europe. Il dit, mais soyons simples, quelles sont les questions à se poser? Eh bien, existe-t-il un logiciel libre qui répond à un besoin? Alors, il y a deux solutions. Soit il existe. Et alors, dans ce cas-là, surtout, ne pas se faire de nœuds au cerveau en se disant, est-ce que je peux faire un appel d'offres pour savoir si je peux mettre en concurrence une solution libre ou une solution propriétaire. Si elle existe, je peux donc la choisir. Et comme elle est gratuite, je peux la choisir sans marché. 2005, la directrice du service juridique de Bercy descend à Solutions Linux pour leur dire « Mais arrêtez de parler de marché public sur des objets qui ne sont pas onéreux. Si vous pouvez vous procurer un logiciel libre gratuit qui existe, choisissez-le sans marché. Par contre, mettez en concurrence, faites un marché public sur le service. » Et là, mettez en concurrence. Alors, il y a une deuxième solution, malheureusement, et qui nous concerne tous, qui est que le logiciel n'existe pas. Et bien, dans ce cas-là, il y a une seule solution. C'est trouver des gens qui ont le même besoin que nous et le faire ensemble. Voilà donc la feuille de route que l'on pourrait avoir à chaque fois que nous avons un besoin auquel on doit répondre, et bien de nous poser cette question. Sans passer un peu vite sur la deuxième solution, en se disant « Est-ce que l'ADULAC le fait pour nous ou non ?» Allons chercher aussi les autres utilisateurs, ceux qui ont les mêmes besoins que nous en même temps. Troisième idée, alors c'est une idée qu'on a de temps en temps et qui commence à faire son chemin. En fait, il existe trois types de forges déjà. Les trois communautés ont fait trois forges. SourceForge, par exemple, c'est le type de forge qui est des forges utilisateurs, des hackers bénévoles. Deuxième type de forge, les forges métiers. La forge de la Fondation Apache, la forge de W2, NovaForge, on a toutes sortes de forges qui sont des forges d'entreprises pour leurs clients ou pour leurs besoins communs. Et puis, à Dulac, aux Ors, ce sont des forges pour les clients, des forges métiers. Faisons forges communes, faisons des forges qui soient des places de marché, où l'on puisse acheter de l'informatique, du service sur la même forge, plutôt que de des forges séparées. C'est une idée qui fait son chemin. Il y a de grands acteurs qui s'intéressent à cette idée de se demander comment des systèmes de production intégrés pourraient fonctionner, qui fassent vivre ensemble, dans le même lieu, tout l'écosystème. Les clients, les développeurs, les entreprises, sur des usines. Quand on veut comprendre le 19e siècle, on se dit, mais comment on a produit des forges à couler continue? Ça aide à comprendre le 19e siècle. Eh bien, regardons de près où est produit le logiciel, c'est là qu'est la clé, essayons de faire des forges intelligentes pour produire des logiciels. Et une économie du numérique qui ne soit pas centrée sur le commerce, sur la vente, sur comment on gagne de l'argent avec le numérique. L'économie, c'est Aristote qui définit la notion d'économie, c'est d'abord la production. L'essentiel du livre, c'est pas comment ça se vend, c'est peut-être plus comment ça s'achète, ça, et surtout comment ça se produit. Je continue mon rêve, le TCO. Si on pouvait prendre en compte en amont les coûts de sortie, on comprendrait très vite l'intérêt du livre. Le TCO oublie soigneusement en général de mesurer vraiment le coût de sortie, l'adhérence d'une solution propriétaire. Et donc, simplement, si on déplaçait le curseur, si on allait plus loin dans la maîtrise des coûts, si on anticipait sur la dépense, eh bien, contrôle de délit public, on irait un peu plus vite sur des solutions de ce genre. On pourrait même aller jusqu'à encourager la mutualisation. La Cour des comptes, régulièrement, et les Cours des comptes régionales observent qu'on doublonne beaucoup, on pourrait mutualiser. On pourrait même punir ceux qui ne le font pas. Ou encourager ceux qui le font. Moi, j'ai remarqué par exemple que dans le domaine de la législation du travail, les entreprises avaient été peu enclines à recruter des personnes handicapées. Il faut dire qu'apparemment, elles sont peu philanthropes. Mais j'ai remarqué aussi que depuis qu'une loi les punit quand elles ne le font pas, elles deviennent philanthropes. C'est fou comme les gens sont gentils. Il est possible que s'il y avait des incitations à mutualiser, le mieux d'ailleurs c'est de punir ceux qui ne le font pas, je crois que les choses avanceraient vite. Parmi les idées, et bon, je ne vais pas trouver, mais au bout de 10 bons points, on a une image. Hein. Une idée, on pourrait faire une déclaration d'intention d'appel d'offres. Par exemple, lorsque toutes les collectivités d'une strate reçoivent la même compétence en même temps, un hasard, le RMI, le RSA, se dit... on est sans avoir la même intention de faire le même appel d'offres. Ou sur les ENT, je sais, des exemples au hasard. Et donc, on pourrait se dire que si on fait une déclaration d'intention d'appel d'offres, on pourrait s'apercevoir, comme c'est bizarre, que nous avons les mêmes, les mêmes CCTP, les mêmes documents, c'est passé par l'intermédiaire de l'association, et qu'on pourrait éventuellement faire un marché complet. Alors, heureusement, on a vu les annonces... de l'UGA via Inagora, via Bull, justement le marché commence à nous dire on est mûr pour essayer de vous aider à acheter ensemble. Voilà, on pourrait rééviter d'inventer l'arbre. Donc, upstream, j'en ai déjà parlé, donc faire remonter. Ne pas simplement se contenter d'utiliser, mais participer. Et là, c'est presque un problème de ressources humaines. Adhérer au livre, d'ailleurs, les managers des collectivités, les directeurs généraux le savent, c'est presque un problème de changement de structure. Si on implique les utilisateurs, impliquons-les jusqu'au bout. Pas simplement en amont, quels sont vos besoins, on va vous faire du livre, on va vous former, non, mais même en aval, continuez à dire comment le logiciel doit évoluer. Et ce que nous disent les gens des communautés qui gèrent les produits, c'est qu'on a beaucoup de retours au moment des accompagnements au changement, et puis ensuite tout s'arrête. Une fois qu'ils ont été accompagnés au changement, ben, ils ne changent plus. Ils font comme avant. C'est devenu, c'est du libre qui ne fait plus rien, qui ne fait plus remonter de solutions. Apparemment, tout va bien. Le logiciel est devenu propriétaire, au moins dans les esprits des utilisateurs. Parmi les chantiers qui sont les nôtres pour les années qui viennent, c'est la coopération entre les coopératives. Le modèle coopératif commence à faire son chemin. Un peu partout sur les territoires, des petites entreprises s'associent pour faire le travail de proximité. Le risque, c'est qu'elles aient tendance à vouloir développer des logiciels métiers, ici ou là, qui soient des logiciels dédiés à une région. Est-ce qu'on va faire des ressources humaines en PACA, des ressources humaines en Bretagne, ou quelque chose qui soit spécifiquement alsacien, ou est-ce qu'on s'avisera de le faire ensemble? Et je pense que la coopération entre les coopératives est aussi un chantier important. Et puis, dernière chose, Roberto Di Cosmo nous en parlera peut-être demain. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des projets poubelles dans l'enseignement supérieur quand on développe. Quand on est formé en informatique, et il faut se féliciter qu'aujourd'hui, beaucoup le libre soit très présent dans la formation, mais il faut aller jusqu'au bout du développement. La participation réelle des étudiants dans la production de code qui tourne, plutôt que de faire un pilote qui ne sert à rien et qui sera jeté, qui ne sera pas utilisé. Apprenons aux étudiants à travailler sur des projets réels, qui tournent réellement et qui les faire amorcer l'entrée dans ce monde ouvert de l'informatique. Exactement comme en mathématiques. Quand on se forme en mathématiques, on ne fait pas des fausses mathématiques dans un coin pour jouer. Si jamais on trouve un théorème qui marche, on le publie quand même. Et donc voilà, essayons de faire un peu de mécano qui sert aux autres plutôt que de jeter ce qu'on fait. Alors j'ai pas eu le temps d'ajouter un slide. Parmi les choses aussi importantes qui permettraient de faire avancer les choses, c'est qu'on fasse mieux le lien entre la question du développement durable et la question du numérique. Il y a beaucoup de manifestations sur le lien entre l'informatique et le développement durable. Apparemment, il y a un fromage. Seulement, on ne voit pas très bien le rapport avec l'informatique libre. Il me semble pourtant qu'on est sur la même question. Nous découvrons que ce que Jean-Baptiste Say appelait les biens libres en économie, ce sont les objets qui ne nous semblent pas devoir avoir un prix. L'air, l'eau, enfin l'eau on la paye. L'air bientôt. Les biens libres, nous le savons, ne sont plus. Les biens libres ne peuvent plus être libres, il va falloir les gérer autrement. Mais en même temps, c'est d'ailleurs intéressant que ça se passe en même temps, nous sommes capables de produire des biens libres numériques. Nous pourrions être capables de partager des choses numériques. Dans les deux cas, c'est le même problème, c'est un problème de changement. Serons-nous capables de comprendre comment consommer autrement les choses, et serons-nous capables de produire autrement du numérique? Et c'est la même question. Et c'est un petit peu dommage que les deux ne soient pas connus. Voilà, je vais terminer en disant que, je le disais tout à l'heure, j'aimerais bien que ce soit mon pays qui le fasse. Si Richard Stallman était là, il me dirait « Liberté, égalité, fraternité ». Je vous remercie.